France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquilon.
Bonsoir, la relaxe générale au procès de l'arbitrage tapis à la une des informés, ainsi que la bataille des marcheurs à Paris, l'écotaxe pour les billets d'avion. On en parle avec nos invités. Bonsoir Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne Université. Bonsoir. Paris 1. Vous aviez été, Thomas Clay, lanceur d'alerte au départ de cette affaire tapis. Bonsoir également et bienvenue à vous, Saveria Rojec, journaliste politique et présentatrice sur Public Sénat. Invite également Valérie Lecable, bienvenue.
Merci, bonsoir Jean-François.
Directrice générale de Hill & Knowlton, HK Stratégie. Avec nous également notre partenaire du mardi. Bonsoir Albert Zenou.
Bonsoir Jean-François.
Bienvenue Albert, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Condamné au civil, relaxé au pénal comme les autres prévenus dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Bernard Tapie est soulagé, comme l'a expliqué son avocat Maître Hervé Thémine.
Je suis très ému parce que je suis très très satisfait. D'abord pour Bernard Tapie, qui vit des moments très difficiles, mais pour lequel je crois que cette décision est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça fait des années qu'on se bat avec la certitude qu'on a raison. Et il y a une sorte de vérité officielle qui a été propagée et qui vient d'être infirmée par le tribunal avec une netteté, une fluidité extraordinaire.
Thomas Clay, nous allons prendre le temps pour comprendre ce qui s'est produit ce matin. D'abord, ce jugement vous a surpris ?
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette affaire, de nombreuses décisions ont été rendues, la plupart défavorables à Bernard Tapie. Je ne les ai jamais critiquées. Je ne vais pas commencer à critiquer celle qui a été rendue aujourd'hui. Je crois au contraire que la justice s'honore quand elle rend une décision comme celle d'aujourd'hui, très fortement motivée, 246 pages pour reprendre l'ensemble de l'affaire. Et les juges pénaux ont estimé que les preuves n'étaient pas suffisamment établies pour ajouter une condamnation pénale, une peine, à une sanction civile qui existe déjà. Moi, je m'incline devant une telle décision, et je vais vous dire, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on peut considérer que, effectivement, la sentence a été annulée, elle a été annulée de manière irrévocable, pour fraude. La Cour de cassation, par deux fois, a reconnu que Bernard Tapie n'avait jamais été floué par le Crédit Lyonnais, que c'est plutôt le contraire. Mais il n'y a pas pour autant une escroquerie au sens pénal, il y a une fraude civile. En quelque sorte, l'acte lui-même est annulé, mais les acteurs ne sont pas condamnés. Et au fond, ça me semble, dans l'ensemble, une situation relativement équilibrée. Mais si je peux faire comme un commentaire, j'ai souligné que j'approuvais cette décision et je rends hommage à la défense de Bernard Tapie qui a été exemplaire, j'observe quand même que la défense de l'État n'a pas été à la hauteur de ses intérêts. C'est d'ailleurs une constante.
Pourquoi dites-vous cela ?
C'est une constante dans ce dossier depuis l'origine. C'est un dossier qui a 30 ans, 35 ans. C'est une constante. L'État ne s'est jamais défendu suffisamment. Là, ce ne sont pas évidemment les deux avocats qui sont en cause, mais les moyens fournis par l'État pour défendre ses propres intérêts. À l'audience, j'étais souvent à l'audience, j'ai bien vu comment ça se passait. On avait deux avocats contre 30. Il aurait sans doute fallu renforcer l'équipe. Et j'ajouterai une dernière question que je pose ce soir. J'aimerais bien comprendre pourquoi les avocats qui ont gagné au civil ont été écartés au pénal.
Saveria Rojec.
Je vous rejoins effectivement sur le fait que l'État n'ait pas été assez bien défendu, mais ça, j'allais dire, ça a déjà été également jugé. Christine Lagarde, qui était à l'époque ministre de l'économie, a été jugée, a été condamnée pour négligence, pour justement ne pas avoir fait appel du recours à l'arbitrage. Donc ça, effectivement, je vous rejoins là-dessus. C'est une constante. En revanche, force est de constater qu'on est effaré devant, bien sûr, c'est une grande surprise, mais l'incohérence entre effectivement la décision pénale et la procédure civile qui, en 2015, a jugé que Bernard Tapie devait rembourser et qu'il y avait eu fraude à l'arbitrage. Donc il y a une grande incohérence.
Et pareil, c'est deux procédures parallèles différentes, il n'y a pas d'incohérence.
Oui, mais dans le sens.
Il y a une décision civile, une décision pénale. La justice française est comme ça.
Mais sur le fond de la décision, effectivement, il y a quand même beaucoup d'éléments troublants et que le blanchiment général auquel on assiste aujourd'hui Il me laisse perplexe.
Alors justement, Hervé Thémine a estimé, Valérie Lecâble, qu'il n'y avait aucune cohérence entre cette décision et le maintien de la condamnation civile à rembourser les 403 millions d'euros. Est-ce que pour vous, il y a une contradiction, même si Thomas Clay souligne que ce sont deux procédures différentes,
hein, Thomas Clay a tout à fait raison, il n'y a absolument aucune contradiction. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation d'un point de vue civil, mais ce n'est pas parce qu'il y a une condamnation civile qu'il y a une fraude de nature pénale. Moi, je voudrais prendre un petit peu de recul. J'avais écrit un livre sur Bernard Tapie il y a 25 ans de cela, et il y avait déjà l'affaire Adidas.
Oui, elle a 26 ans cette affaire. Oui.
Etc. Mmh. Voilà, c'était le début de cette affaire, et je trouve que cet homme aura été tout au long de ses 25 ans un personnage absolument romanesque, comme peu on en a connu en France de ce type-là. Et la chance qu'il a aujourd'hui, et moi d'un point de vue purement émotionnel et concernant l'homme et sentimental, etc., c'est que on sait qu'il est de nouveau extrêmement malade, qu'il a été obligé de recommencer une chimio, que ça va pas bien, qu'il est extrêmement fatigué. Pour qu'il soit pas allé au tribunal, c'est que vraiment, il pouvait pas y aller.
Oui, il affronte là, à 76 ans, vraiment, une rechute du cancer. Oui.
Voilà, exactement. Mmh. Donc, il pouvait vraiment pas y aller. Et qu'il obtienne cette relaxe ce jour-là et à ce moment-là, je trouve que c'est quelque chose d'absolument étonnant. Parce que, comme vous avez dit, il a quand même eu beaucoup plus de condamnations qu'il n'a eu quasiment que des condamnations toute sa vie, en fait. Mais il est passé à travers les gouttes à chaque fois parce qu'elles n'ont pas forcément été exécutées. Il a toujours pas donné d'argent, finalement, puisqu'il en a pas et qu'il l'a caché
dans
l'état
d'argent.
Parce qu'il est en faillite personnelle depuis
94. Il est toujours dans son hôtel particulier, oui, rue de Saint-Père. Je vous jure qu'il y a 25 ans, il devait le rendre, son hôtel particulier.
Il devait le rendre clé en main.
Et il y est toujours.
Albert Zénou,
et je trouve que c'est une histoire absolument hallucinante, comme la France en connaît pas beaucoup.
Mmh. Albert Zénou, réaction à ce jugement?
Moi, je trouve que la cohérence des deux jugements au civil et au pénal, elle n'est pas là. Et on peut se poser la question, est-ce que le civil, si le pénal avait eu lieu avant le civil, est-ce que la décision aurait été différente? Est-ce qu'il aurait été obligé de rembourser, enfin, en tous les cas, l'obligation de rembourser? Je ne sais pas s'il remboursera un jour l'argent qu'il a obtenu. Mais après, on peut se poser vraiment la question que cette...
Vous y voyez un élément d'incohérence, vous?
Il y a forcément des éléments d'incohérence. On ne peut pas être condamné au civil. Enfin, on peut, puisque c'est la loi,
prison,
donc c'est possible.
Pas la même chose,
mais ça paraît quand même. C'est extrêmement, extrêmement bizarre, extrêmement paradoxal, je trouve.
Allez, on va rester sur cette affaire Tapie, sur ce jugement survenu ce matin. Tout d'abord, 20h10 sur France Info. Nous marquons une pause avec le rappel de l'info et vous, Thomas Bénèche.
Le remboursement de l'homéopathie, c'est bientôt fini. La ministre de la Santé va l'annoncer ce soir ou demain. La Haute Autorité de Santé avait pointé il y a 10 jours maintenant l'inefficacité de ces traitements. Ce déremboursement sera total d'ici 2021. Le nombre de morts sur les routes stable le mois dernier par rapport à la même période en 2018. C'est ce que dit ce soir la sécurité routière. 290 personnes ont perdu la vie. Le ministre de l'Intérieur affirme par ailleurs que l'abaissement de la vitesse de 80 km/h depuis le 1er juillet 2018 a permis de sauver 200 civils. La jeune fille de 18 ans, retrouvée morte dimanche dans le cimetière d'Estagel dans les Pyrénées-Orientales, a été victime d'une agression sexuelle. Le procureur adjoint de Perpignan ajoute que son agresseur l'a poignardée à 5 reprises avant de l'étouffer. La victime participait la veille au soir au bal des pompiers. J'ai plus d'interrogations que d'affirmations, confie l'eurodéputé Rassemblement National Nicolas Bay. Invité du 19-20 politique sur France Info, il réagissait à cette relaxe aujourd'hui de Bernard Tapie. Le tribunal correctionnel de Paris estime qu'il n'y a pas eu de manœuvre frauduleuse dans le règlement du litige Crédit Lyonnais Adidas.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci à vous Thomas Bénèche. La relaxe générale au procès de l'arbitrage Tapie. Je vous propose d'écouter les mots du représentant de l'État, maître Benoît Chabert.
Le fait que Bernard Tapie, sur le plan civil, doit payer 402 millions d'euros, ça c'est définitif, ça n'a pas été qualifié de fraude pénale. Je pense que cette fraude civile est en effet et peut-être qualifiée de fraude pénale. Le tribunal pense différemment, c'est le jeu de la justice.
Thomas Clay, l'État est défait dans cette affaire?
L'État est défait, l'État, comme je le disais avant l'interruption, n'a pas, s'est pas donné les moyens de gagner cette affaire. Je le dis très clairement.
Est-ce que vous contestez implicitement le jugement qui est
donné? Non, Jean-François Aquili, j'ai commencé par dire que je trouvais cette décision remarquable et que la justice s'honorait en rendant une décision de cette nature. Et je l'ai lue, elle fait 246 pages, elle est remarquable, elle retrace toute l'affaire. Au contraire, ça ne veut pas dire que l'État ne s'est pas bien défendu. Je considère que l'État ne s'est pas donné les moyens de sa défense.
S'il y a un appel du jugement, c'est possible encore.
Ça. Il y aura vraisemblablement un appel du parquet. C'est probable, puisque le parquet avait requis des peines extrêmement lourdes. Donc, à partir du moment où le parquet requiert 5 ans de prison, que les juges d'instruction ont fait quand même une ordonnance de renvoi, des juges d'instruction très expérimentés. Donc on a une appréciation des faits, ici, par des juges, qui est une appréciation approfondie, qui ont considéré qu'il y avait une infraction supposée, et d'autres juges, des juges du siège, font une autre appréciation des mêmes faits. C'est ça la justice.
Ça veut dire qu'on risque de revivre le même procès.
La justice, c'est qu'à partir de faits identiques, on apprécie différemment. Il faut s'enorgueillir de ça.
Non, mais ce que je trouve impressionnant dans ce que dit Thomas Clay, c'est qu'il y a la justice, mais il y a aussi l'interprétation. C'est-à-dire que, effectivement, il y a eu ces plaidoiries qui ont été absolument incroyables, il y a eu ce Bernard Tapie qui se bat jusqu'au bout. Il y a eu l'État qui n'a pas été extrêmement présent. Si la situation n'avait pas été la même, est-ce que le jugement aurait été le même? C'est ça aussi la question qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'État avait eu de meilleurs défenseurs, que les avocats de Tapie avaient fait une moins bonne plaidoirie, qu'il avait été dans une autre situation que celle dans laquelle il est aujourd'hui, est-ce qu'on aurait eu le même jugement? La question demeure, en fait.
Alors justement, à propos de ce jugement, vous allez réagir, Savaria Rojec, et vous, Albert Zénou également. Voici ce qu'on a dit sur France Info, Laurent Moudoui, décision invraisemblable selon le cofondateur du site d'investigation Mediapart.
Comment expliquer que Christine Lagarde soit condamnée, même si elle dispensait de peine, alors que Tapie, l'acteur principal de l'histoire, est relaxé? C'est incohérent. Comment expliquer que le tribunal aujourd'hui dise qu'il n'y a pas eu fraude, alors que précisément c'est la fraude qui justifie l'annulation de l'arbitrage par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris?
Savaria Rojec, vous comprenez les interrogations de Laurent Mauduit de Mediapart?
Oui, absolument. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que Christine Lagarde a été condamnée pour négligence il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde est relaxé pour les mêmes faits. Donc effectivement, il y a une certaine incohérence. Alors, ce ne sont pas les mêmes procédures, mais il y a une incohérence. Et effectivement, au-delà de ça, dans l'affaire, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments troublants, si ce n'est d'éléments de fraude. Je n'en citerai qu'un seul, c'est le nombre de rendez-vous que Bernard Tapie a avec Nicolas Sarkozy, quand Nicolas Sarkozy est à l'Élysée, président de la République, au moment où l'État décide de recourir à cette procédure d'arbitrage. Ça, c'est... Si ce n'est une fraude, en tout cas un élément troublant.
Albert Zénou, il y a la chose jugée, mais est-ce qu'il reste, selon vous, des doutes dans cette affaire?
Il reste des doutes. Je reviens toujours sur cette incohérence des procédures et des décisions. Il y a eu 25 ans de décisions qui ne se ressemblent pas. On finit avec une bérésina juridique pour l'État, pour le ministère public, avec des doutes. Est-ce que les premiers jugements qui ont été plutôt favorables à Bernard Tapie, ensuite très défavorables, maintenant il y a une relaxe générale, on n'y comprend plus grand-chose.
Il est important.
On y comprend. Alors, pour le grand public, pour les non-juristes, mais la justice n'est pas faite nécessairement pour être accessible à tout le monde. Là, ce qui compte, c'est de savoir ce que la justice a décidé. Elle a décidé deux choses, finalement, très simples. Elle a d'abord décidé, dans un premier temps, que la sentence arbitrale avait été obtenue par fraude et qu'elle devait être annulée et que l'argent devait être restitué. Et ça, c'est définitif. C'est au civil. Et puis, on lui a demandé, est-ce qu'en plus... il y a des sanctions pénales. Est-ce qu'en plus, il y a une escroquerie? Est-ce qu'il faut donner des peines de prison en plus? Et là, la justice a dit, il n'y a pas assez de preuves pour le pénal. Donc tout ça est en réalité extrêmement...
Une chose est sûre, c'est que Bernard Tapie en a fait le combat de sa vie, de sa fin de vie même. J'espère qu'il s'en sortira. On voit bien que pour lui, c'était très très important ce rendez-vous judiciaire. Il fallait qu'il gagne. Il a gagné. Il s'est servi aussi
mon cancer vient d'en prendre un seul coup dans la gueule.
D'un avocat quand même assez exceptionnel, enfin d'une équipe d'avocats emmenée par Hervé Thémines.
Il y a quelque chose de
trouble malgré tout. Alors c'est vrai que le droit n'est pas fait pour peut-être le grand public, pour être accessible.
Comme le dit Thomas Clay, oui.
L'autre sujet sur lequel je voudrais dire un mot, c'est qu'on oublie le mot général. Là, depuis tout à l'heure, on parle que de Bernard Tapie. Il n'était pas tout seul sur le banc des accusés. Et il faut quand même savoir ce que ça voulait dire d'être au pénal avec les autres intervenants. Donc, effectivement, il y a des gens ce soir qui sont soulagés, qui, après 6 ans de procédure, se trouvent blanchis. Et ceux-là aussi, il faut qu'on en parle.
Les parties civiles n'ont rien réclamé contre les acteurs politiques du dossier,
par exemple. Il n'était pas tout seul, pardonnez-moi, il n'était pas tout seul. Il y avait éminemment le PDG d'Orange, Stéphane Richard, l'un des autres acteurs, effectivement, de ce dossier, qui n'a pas caché sa satisfaction après l'énoncé du jugement.
C'est bien évidemment une très grande satisfaction, un très grand soulagement. J'ai vécu pendant des années avec des accusations portées contre moi, dont je me suis toujours défendu avec la plus grande vigueur. J'ai subi tout ce qu'une procédure comme celle-là peut représenter, également aussi dans le cadre de mes fonctions. Et donc aujourd'hui, c'est un immense soulagement de voir mon innocence totalement reconnue par ce tribunal.
Ça veut dire, Roger, qu'on peut comprendre hein, le soulagement du PDG d'Orange, qui peut rester du coup à la tête du groupe.
Absolument, grand soulagement. Soulagement également pour les syndicats, qui ont immédiatement réagi en disant qu'eux aussi étaient rassurés sur l'avenir de l'entreprise.
Ils risquaient, et tu lui avais accordé sa confiance avant le jugement.
Absolument, ils risquaient 3 ans de prison, d'autant plus que Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, avait dit, attention, en cas de condamnation,
il
sera démissionné. Voilà. Mais on voit bien que les enjeux du procès civil et du procès pénal ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir dissociation, effectivement. Mmh. C'est-à-dire que dans un cas, il y a eu fraude et on rembourse l'argent, et dans l'autre cas, on parlait de prison, on parlait de démission d'un des plus grands groupes
français. Oui, vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas la même chose.
Non, mais... les enjeux n'étaient pas les mêmes.
Mais c'est incompréhensible. La dissociation des deux, c'est incompréhensible.
Pas tous en même temps. Thomas Clé, vous évoquiez le pouvoir politique tout à l'heure.
Oui, je disais que les partis civils n'ont rien réclamé à l'égard de Stéphane Richard, de Jean-François Rocky et de Monsieur Semama dans l'instance. Mais je ne veux pas continuer là-dessus.
Stéphane Richard n'a pas bénéficié de l'arbitrage, contrairement à Bernard Tapie.
Poursuivez. Ben,
enfin, il était quand même renvoyé et le parquet, lui, a réclamé 18 mois de prison ferme. Mais Stéphane Richard n'avait rien à faire dans ce dossier. Moi, je l'ai dit, à de multiples reprises. Il n'avait rien à faire dans ce dossier.
Il était directeur de cabinet de Christine Lagarde.
Christine Lagarde, elle est condamnée sans peine et lui est relaxé.
Mais alors, Albert Zénou, moi, je vais vous dire. S'il y a une incohérence dans le dossier, elle est là. Bah oui. Elle est sur la condamnation de Christine Lagarde, qui à ce jour est la seule condamnée pénalement dans cette affaire, et le fait que l'ensemble des autres acteurs soient relaxés. Mais pas entre le civil et le pénal. Elle est au cœur de la décision pénale, et c'est-à-dire en réalité cette juridiction étrange qui est la Cour de justice de la République, dont on nous annonce depuis longtemps qu'elle devrait être supprimée.
Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir pour l'essentiel hein, de ce jugement, cette relaxe générale dans l'affaire de l'arbitrage Tapie Crédit Lyonnais, sachant que nous sommes désormais en attente hein, d'une décision du parquet pour un éventuel appel, et ça ce sera dans les 10 jours. Allez, sous les 10 jours, 20h20 sur France Info, rappel de l'info avec vous Thomas Bénèche.
L'homéopathie ne sera plus remboursée. La ministre de la Santé va l'annoncer ce soir ou demain. Il y a quelques jours, la Haute Autorité de Santé jugeait l'efficacité de ces traitements insuffisante. Leur déremboursement se fera progressivement sur les 2 années à venir. Le groupe Boiron, spécialiste de ces médicaments, dit à l'instant qu'il fera tout pour combattre cette décision. Transporteurs aériens et routiers mis à contribution pour répondre à l'urgence climatique dès 2020. Une écotaxe d'1,50€ à 18€ sera ponctionné sur les prix des billets d'avion. Les transporteurs routiers verront, eux, diminuer de 2 centimes par litre le remboursement partiel de leur gasoil. Ils comptaient jusqu'à 2000 clients par jour. Un important réseau de trafic de drogue vient d'être démantelé à Marseille. Les policiers ont mis la main sur 200 kilos de résine de cannabis, de la poudre de cocaïne, de l'héroïne. C'est la plus grosse saisie de stupéfiants dans la cité phocéenne depuis 6 ans. Retour de bâton et tensions diplomatiques entre États-Unis et Grande-Bretagne. Le président américain qualifie aujourd'hui de stupide et d'imbécile prétentieux l'ambassadeur britannique en Amérique. Celui-ci a vivement critiqué le locataire de la Maison-Blanche, cela dans des câbles diplomatiques diffusés dans la presse samedi outre-Manche.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, je voudrais que nous abordions la campagne compliquée de Paris pour La République en Marche. Mais tout d'abord, je vais vous faire réagir ce soir à ce que vient de révéler, d'annoncer Thomas Bénèche. C'était sur France 2 et sur France Info depuis 20h. Agnès Buzyn va donc annoncer le déremboursement, d'abord partiel, puis total, de l'homéopathie. C'était attendu et apparemment la décision est précipitée. Emmanuel Macron a donc tranché. Savaria Rejac, est-ce que c'est la bonne décision?
C'est en tout cas la décision que prend le président. C'était une décision, comme vous l'avez dit, qui était attendue parce que le président décide de suivre l'avis de l'autorité, de la Haute Autorité de Santé. C'est aussi la position de la ministre de la Santé, d'Agnès Buzyn. Donc il y avait un certain consensus au sein de l'État, au sein de l'exécutif là-dessus. Maintenant, là où ça coince, effectivement, c'est à l'Assemblée, c'est les députés, parce que tout d'abord, il y a un lobby des médecins qui est assez fort. Et politiquement, il y a des personnalités importantes politiques, Gérard Collomb, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, qui plaide, pour que le déremboursement de l'homéopathie ne soit pas total, parce que beaucoup d'emplois sont en jeu, en l'occurrence Boiron, qui est le leader mondial de l'homéopathie, 1000 emplois sont en jeu.
1000 à 1300,
c'est-à-dire la moitié des emplois de Boiron qui sont en jeu. Voilà, donc, mais en tout cas, la décision ce soir du président d'Agnès Buzyn suit ce n'est pas tellement une surprise. C'était l'avis il y a 10 jours de la Haute Autorité de Santé. C'est une décision avant tout politique.
Politique. Alors, de quoi est-ce qu'on parle, Albert Zenou? Parce qu'au fond, les remboursements d'homéopathie coûtent 120 millions d'euros par an à la Sécurité sociale. Et c'est une goutte d'eau par rapport aux 20 milliards de médicaments remboursés. De quoi est-ce qu'on parle?
Une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça peut faire un grand jet aussi. Les économies, elles se font pas à coup de milliards, elles se font parfois à coup de millions aussi. Donc est-ce que
120 millions sur 20 milliards, ce n'est pas grand-chose.
Est-ce que l'homéopathie est utile? Aucune preuve scientifique ne le montre. Alors il y a à la tête du ministère de la Santé une médecin qui est très opposée à l'homéopathie. Elle en a fait même un axe fort de sa politique. Elle a mis sa démission dans la balance, puisqu'à un moment, on savait bien que Macron hésitait justement sur le faible coût des économies. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se priver d'une partie?
Il hésitait avec un déremboursement partiel.
Et donc, il a mis tout son poids dans la balance et obtenu. Il en allait de sa réputation et de sa responsabilité scientifique même. Donc, elle a obtenu ce qu'elle a voulu et c'était un poids important dans le gouvernement, dans la majorité.
Alors, Valérie Le Câble, c'est le laboratoire Boiron qui nous révèle que quotidiennement, au fond, 20 000 médecins en France, 20 000 prescrivent de l'homéopathie et 4000 sont des experts. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que dit Albert Zenou sur on a des doutes sur l'efficacité de l'homéopathie aujourd'hui.
Non, mais moi, je ne suis ni scientifique, ni pharmacienne, ni encore moins médecin, donc j'en sais rien. Mais je suis extrêmement frappée en France à quel point on est extrêmement... on laisse peu de liberté aux gens. C'est-à-dire que tout d'un coup, on décide que l'homéopathie, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas d'accord. S'il y a des gens qui croient que...
C'est le déremboursement,
c'est tout. Vous me laissez terminer ou pas ? À partir du moment où il y a des gens qui considèrent que ça peut être préventif de l'homéopathie, quand vous commencez à avoir un rhume, on vous dit prenez tel truc, vous n'aurez pas votre rhume.
Il y a une décision de ce sens. Personne ne va empêcher les Français d'aller acheter de l'homéopathie.
Je vais juste terminer. C'est nier la part psychologique et humaine d'une maladie. Je veux dire, dans une maladie, tout n'est pas rationnel. Il y a des gens qui croient à un certain nombre de choses et qui, grâce à ceux qui croient, vont pouvoir guérir. Moi, je suis frappée qu'en France, par exemple, les ostéopathes, qui pour moi sont absolument fondamentaux, qui permettent de vivre avec le stress, avec un certain nombre de choses, etc., ne sont pas remboursés non plus. C'est-à-dire qu'on a une façon de juger de ce qui doit être remboursé ou pas, qui, à mon avis, relève d'une médecine ancienne et qui ne tient absolument pas compte de la partie non rationnelle de l'être humain qui, on le sait, peut guérir avec... Pourquoi on met des placebos? Pourquoi les placebos, ça marche? C'est exactement la même chose.
Thomas Clé, alors justement, le gouvernement laisse un délai de 2 ans. Actuellement, c'est 30%. Ce sera 15% l'année prochaine et 0% l'année suivante. Donc, on essaie de faire avaler la pilule, si je puis dire.
La pilule homéopathique, le granule.
C'est une décision politique pour vous?
C'est une décision budgétaire.
Budgétaire.
Mais en fait, de deux choses l'une. Soit ça sert à quelque chose, et je suis d'accord avec Valérie Le Câble, ça sert soit de manière physiologique, soit de manière psychologique, mais au fond, peu importe, ça sert à quelque chose. Et alors, il faut rembourser. On parle d'un remboursement de 30% seulement. C'est ça dont il est question. Oui, soit ça ne sert à rien, et alors il ne faut pas rembourser, évident. Et si je peux moi aussi terminer. Et voilà, la question, elle se pose exactement en ces termes. Donc, on a une haute autorité de santé qui nous dit qu'il faut dérembourser, on a une ministre de la Santé qui connaît son sujet et qui dit ça ne sert à rien, et de l'autre côté, on a des médecins qui nous disent mais si, ça sert, c'est utile dans notre pratique quotidienne. Je me sens pas d'arbitrer.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui prennent pas d'anxiolytiques parce qu'ils prennent je ne sais quel truc qui soi-disant. Non, mais je suis sûr que ça
marche. Albert Zenou.
Ne pas rembourser, le déremboursement de l'homéopathie ne veut pas dire la fin de l'homéopathie. Enfin, ceux qui y croient et qui
veulent. Pourquoi on dérembourse alors?
Parce que il y a aucune étude scientifique qui prouve que c'est efficace.
Il n'y a pas d'étude qui prouve que ça ne l'est pas.
Oui. Non, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La décision de ce
soir, personne n'est comme si ça a essayé de trancher cette controverse.
Malgré la décision de ce soir, tous les Français pourront encore demain aller acheter et trouver dans les pharmacies les produits homéopathiques.
Donc vous nous dites que le remboursement.
Ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui pourront prendre de l'homéopathie.
C'est à l'état tranché et qu'aujourd'hui les plus hautes autorités de santé de notre pays nous disent que l'efficacité est insuffisante.
Dernière considération sur ce thème avec vous, Valérie. Le câble, il y a un petit risque d'ordre politique avec cette décision de créer du mécontentement.
Il y a toujours du risque de créer du mécontentement quand on dérembourse quelque chose. Hein. En France, c'est comme ça, on est habitué à être remboursé de tout. Donc à partir du moment où on enlève un remboursement, on prend toujours un risque. Mais surtout, je trouve qu'il y a un petit peu d'irrationnel dans cette histoire. Et c'est ça qui est
En tous les cas, 120 millions d'euros qui vont rester dans les caisses sur 20 milliards. Voilà, il va falloir faire un ratio à vos calculettes. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite des Informés de France Info. Nous évoquerons la campagne de Paris chez les marcheurs. À tout de suite.
Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
Salut, c'est Bruno Solo. Vous savez, cette année, le 14 juillet est différent des autres, car Lino Ventura aurait eu 100 ans. Alors ensemble, poursuivons son combat pour Personnage et les personnes en situation de handicap. Pas question de se défiler. Pour la Fondation Personnage, on se bleu, blanc, bouge. Tous. Rendez-vous sur personnage.org.
France Info Météo, avec le CIC. Banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Une belle journée d'été demain, beaucoup de soleil pour commencer la journée. Quelques nuages sur le Nord-Pas-de-Calais, de la grisaille entre le sud de l'Aquitaine et le nord de Midi-Pyrénées. Et toujours quelques averses orageuses sur le sud des Alpes et la Corse. Le vent se fera sentir sur le sud-est. Mistral et Tramontane souffleront jusqu'à 60 à 70 km à l'heure. Il fera seulement 8 degrés à Reims, 11 à Caen et Nancy, 15 à Paris, 16 à Lyon et Toulouse et 19 degrés à La Rochelle, 20 à 7, 23 à Nice. L'après-midi, il ne restera que quelques averses sur la montagne Corse et les Alpes du Sud. Des passages nuageux entre la Manche et le nord de la Seine. Partout ailleurs, du soleil. Les températures en hausse partout afficheront 23 à 26 degrés près de la Manche. 25 à 31 degrés ailleurs. 28 à Paris, Dijon, Clermont-Ferrand. 31 à Nantes et à Cognac. Jusqu'à 29 à 34 degrés autour de la Méditerranée. Les 34 à Nîmes.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et 20h30 sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir, Lauriane Delanoë.
Bonsoir. Le gouvernement a fait son choix. D'après France 2, il annoncera ce soir ou demain la fin du remboursement de l'homéopathie par la Sécurité sociale. C'est ce que recommande la Haute Autorité de Santé. Le déremboursement se fera progressivement jusqu'à être total dans 2 ans. Autre annonce du gouvernement aujourd'hui, la mise en place d'une écotaxe sur les vols au départ de la France et ce dès l'an prochain. 1,50€ à 18 euros de plus par billet. Une partie des recettes sera réinvestie dans les infrastructures ferroviaires. Alors la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille, dénonce une concurrence déloyale.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier levier d'action pour une compagnie aérienne, c'est la transformation de sa flotte et l'achat d'avions de nouvelle génération. Cette taxe, nous estimons qu'elle va impacter l'économie d'Air France d'environ 60 millions d'euros par an. Et 60 millions d'euros par an, c'est un certain nombre d'avions que nous ne pourrons pas investir. Deuxième peine, c'est que cette taxe ne va pas réellement être utilisée pour la transition environnementale du transport aérien, puisqu'elle va être dirigée vers des investissements sur les infrastructures routières et ferroviaires qui bénéficient déjà largement d'argent public, contrairement au transport aérien qui finance l'intégralité de ces infrastructures. Et enfin, n'oublions pas que l'activité d'Air France et plus globalement du transport aérien français, elle se déroule dans une compétitivité assez violente, une concurrence très forte, et que Air France représente 1,1% du PIB français et 350 000 emplois directs ou indirects.
La directrice générale d'Air France. Du côté des associations, une responsable du réseau Action Climat estime au contraire sur France Info que la mesure est insuffisante et que le montant de la taxe doit être revu à la hausse. Une relaxe générale au procès pour escroquerie dans l'arbitrage avec le Crédit Lyonnais. Le tribunal correctionnel estime aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de preuves contre Bernard Tapie, Stéphane Richard et les quatre autres prévenus. Pour l'avocat de Bernard Tapie, Maître Temim, c'est une décision extrêmement nette, claire et courageuse. Dans l'enquête sur les fuites des sujets de mathématiques au baccalauréat, l'avocat du surveillant mis en examen assure sur France Info que son client n'avait pas la possibilité matérielle et technique d'accéder seul à ces sujets. Le lycée de Créteil affirme pour sa part avoir vérifié ces procédures et elles ne sont pas mises en cause. Serena Williams face à la Tchèque Barbora Strikova, 54e joueuse au classement du tennis mondial. Simona Halep face à l'Ukrainienne Elina Svitolina. Voici les affiches des demi-finales femmes de Wimbledon après les quarts aujourd'hui sur les gazons de Londres. 20h33 sur France Info, la suite des informés avec vous Jean-François Aquili.
20h21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne Université Paris 1, avec Saveria Rojec, journaliste politique et présentatrice sur Public Sénat, avec Valérie Lecap, vous êtes directrice générale de HK Stratégie, avec Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Alors c'est l'heure du choix pour La République En Marche. Qui de Griveaux, Villani ou Rançon sera candidat aux municipales parisiennes? Les trois candidats encore en lice ont été auditionnés aujourd'hui par la CNI, la Commission Nationale d'Investiture. Un bureau exécutif censé trancher se réunit demain soir à 20h. Hugues Granson, après son audition, réclame du temps.
Moi je considère qu'il faut qu'on puisse avoir le temps de débattre. Il y a trois projets aujourd'hui, trois profils et trois rapports à l'avenir. On parle beaucoup de CNI, de désignation, de procédure, de ralliement, mais au fond ça n'intéresse personne.
Saveria Rojec, ça n'intéresse personne, la CNI et tout le reste, ça va trop vite?
Ah non, je crois qu'au contraire ça passionne, ou en tout cas ça va passionner tout le monde, que Paris vaut bien un suspense, que la dramaturgie est montée grandement ces derniers jours. Il y avait effectivement Benjamin Griveaux qui était le candidat favori, un des premiers marcheurs, voilà, et puis Cédric Villani a fait une très très bonne campagne. Moi ce que je peux vous dire, j'ai eu quelques éléments là sur ce qui s'est passé cet après-midi. Granson est passé le premier, qu'il a été bon, que ça a été le plus parisien. Il a évoqué effectivement son passé avec Jacques Chirac. On m'a dit une phrase également, donc un des membres de la CNI. Benjamin Griveaux a été bon, solide, mais Cédric Villani a été éblouissant. Éblouissant à la fois sur...
Ça, c'est un des membres de la commission en question, voilà, qui vous raconte ça.
C'est étanche, cette commission.
Sur la hauteur de vue.
Vous dites, Thomas Clé,
voilà,
je dis que c'est étanche, puisque, enfin, on en parlera dans un instant.
Cédric Villani, effectivement, les cinq premières minutes, il y a eu un peu cet aspect... c'est un personnage...
Éblouissant.
C'est un personnage iconoclaste. Ouais. Donc, il y a eu les cinq premières minutes où c'est un peu le professeur Tournesol, voilà. Mmh. Et qu'ensuite, il est monté en puissance et qu'il a été effectivement très bon sur sa hauteur de vue, sur ce qu'il propose pour les Parisiens. Mais en revanche, visiblement certains membres, c'est est-il fait pour être maire? Cédric Villani. Et qu'au final, visiblement ce soir, celui qui paraît le plus capé, le plus à même, celui qui a le plus de soutien, un programme le plus solide, c'était effectivement de l'avis général partagé au sein de la commission, Benjamin Griveaux, et que la question, pour terminer, qui se pose ce soir, est plutôt comment faire en sorte, désormais, une fois que la décision tombera demain, que les trois, ces trois-là, travaillent ensemble, comment les intégrer à la campagne.
Ils se rabibochent après la bataille, oui.
Pas se rabibocher, mais comment mettre en lumière Cédric Villani, qui est effectivement, visiblement, plaît au public, et voilà comment le faire travailler avec Benjamin
Thomas
Griveaux,
Clé, de votre point
qui sera visiblement désigné donc demain.
Vous dites qu'il sera vraisemblablement demain soir.
Un habillage.
Oui, absolument.
Thomas Clé. C'est un habillage, y compris la montée en puissance ces derniers jours de Cédric Villani, tout ça c'est de la mystification. Alors j'ai un peu de mal à vous en parler.
Mystification, pourquoi vous dites ça?
J'aurais quand même prendre une précaution oratoire, puisque je suis moi-même le président de la commission d'investiture du mouvement rival, qui est le mouvement parisien de Gaspard Ganzer. Donc je vais être dans la position de la commission d'investiture dans quelques temps, et je peux vous dire que si jamais un des membres de ma commission raconte à la presse...
Je précise pour nos auditeurs, vous ne l'êtes pas encore,
Oui. Je suis président depuis aujourd'hui d'ailleurs.
Ah d'accord. Mais
pour le coup, si un des membres de ma commission raconte à la presse ce qui se passe et quelles sont les impressions, je serais extrêmement mécontent. Ça ne doit pas se passer.
Ces
comme
récits-là
ça.
Ne devraient pas exister. Ils ne devraient non, pas
de
être sur la place publique.
De l'intérieur de la commission, de raconter les perceptions que les membres ont des candidatures. C'est le rôle de la presse d'essayer d'avoir de l'information, mais c'est le rôle de la commission de ne pas en donner. Il y a un canal officiel. Il y aura une décision qui sera en principe donnée demain, et il n'y a pas de raison qu'il y ait des fuites au
parquet. Extrêmement sûr de vous qu'il va y avoir une décision qui va être donnée demain. Peut-être qu'il y en aura une, mais j'ai pas l'impression qu'à l'heure où on parle là tout de suite, la décision a été définitivement ou formellement prise. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des délibérations, etc. Et ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'on est quand même dans une situation absolument surréaliste. Enfin, ça fait des semaines qu'on est là avec un affrontement. En fait, il y a un véritable doute parce que le problème, c'est que depuis le temps qu'on en parle, il n'y a pas un candidat qui s'est dégagé véritablement. C'est ça l'histoire, en fait.
Pourquoi surréaliste ?
C'est-à-dire... Mais moi, je trouve ça surréaliste, si vous voulez, qu'un parti politique, en soi, qui n'a que 2 ans en plus, qui se voulait un mouvement citoyen à la base, comme celui de Gaspard Ganser, etc., en soi, à se faire des chamailleries. Qu'est-ce qu'on l'a entendu dire ? Il y a trois projets différents pour Paris. Il y a trois projets différents par Paris, au sein du même parti politique. Au sein du même parti politique. Mais de quoi on parle ? Mais est-ce qu'ils sont dans le même parti ou pas, ces gens-là ? C'est ça que j'aimerais comprendre. Est-ce qu'ils sont dans le même parti ou pas ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Ils ont le même sondage, je veux dire, pour deux d'entre eux. Ils sont dans le même parti. Ils disent qu'ils ont 3 projets différents au sein du même parti. Qu'est-ce qui va se passer après ? J'ai entendu 3 projets différents. Oui. C'est important, quand même. C'est ça dont on parle pour les municipales. C'est des projets.
Parti, 3 projets.
Oui. Et du coup, comment est-ce que... Le choix sera forcément discutable.
Albert Zinou, pourquoi est-ce que c'est si difficile ?
Alors, je reviens, ça va énerver encore un peu plus Thomas Clay, puisque moi j'ai d'autres informations aussi. Alors, autant le
Benjamin
Giveau,
effectivement,
il a été brillant. Rançon a été bon.
Laissez parler Albert Zinou, s'il vous plaît.
Cédric Villani aurait semé un peu le trouble. Qui n'a pas été si brillant que ça.
Donc, il y a des fuites contradictoires.
Oui,
Il y a de l'intox.
Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est une décision qui, a priori, est cousue de fil blanc. Vous savez très bien que la CNI, donc la Commission nationale d'investiture, ça se résume à une personne, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui va décider qui sera le Benjamin Griveaux annoncé demain. Donc, on sait bien que, a priori, c'est lui qui sera.
Vous savez si Emmanuel Macron a décidé à l'heure actuelle, vous le lisez dans le café, personne ne le sait.
Non, je sais bien que
personne ne le sait.
Je sais bien que personne ne le sait.
Mais le président n'a pas encore pris sa décision.
C'est pas le problème de
le président n'a pas pris sa décision. Non,
Paris,
mais c'est exact.
Puisque on voit bien que la candidature de Benjamin Griveaux, elle n'est pas si évidente que ça, peut-être aux yeux de certains macronistes, et en tous les cas de l'exécutif, qui a pratiquement tout le gouvernement est rangé derrière Benjamin Griveaux. Mais auprès des Parisiens, et c'est pas sûr que Benjamin Griveaux...
Pour vous, ce n'est pas plié, cette affaire.
Non, c'est pas plié. Benjamin Griveaux, il est un peu comme Wauquiez. Il a un problème d'image personnelle qui est difficile. Ça passe pas beaucoup. Ça a du mal à passer, en tous les cas... pas si évident que ça.
Albert Zinou, je vous propose de marquer une pause. On va écouter d'ailleurs dans un instant ce qu'a dit Benjamin Griveaux à la sortie de ses auditions. 20h40 pour l'heure, rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Les laboratoires Boiron, fabricants de médicaments homéopathiques, demandent à être reçus en urgence par le président de la République. Cela alors que le ministère de la Santé confirme à l'instant la fin du remboursement de ces traitements d'ici 2021. La Haute Autorité de Santé les avait jugés il y a quelques jours inefficaces. 290 personnes tuées le mois dernier en France, c'est autant qu'en juin 2018, analyse ce soir la sécurité routière. Le ministre de l'Intérieur chiffre par ailleurs à 206 le nombre de vies épargnées par l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur le réseau routier secondaire, une mesure dont les députés ont voté l'assouplissement. Plus d'un milliard d'euros, c'est le montant des fraudes aux moyens de paiement en France l'an dernier. Le chiffre est publié ce mardi par l'Observatoire chargé d'étudier cette question. Il est rattaché à la Banque de France. Canal+ confirme, la filiale du groupe Vivendi va supprimer 492 postes via un plan de départ volontaire. Canal+ est confronté aujourd'hui au succès de ses rivaux dont la plateforme américaine Netflix. Le Tour de France et la victoire aujourd'hui à l'issue de la 4e étape d'un Italien, Elia Viviani. Le Français Julien Alaphilippe conserve le maillot jaune.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, encore quelques mots sur cette pré-campagne parisienne, on va appeler ça comme ça, avant d'évoquer l'écotaxe, sujet sérieux. Voici ce qu'a dit Benjamin Griveaux, donc donné comme favori à la sortie de son audition devant la Commission nationale d'investiture de La République en marche.
Je crois qu'il est temps que nous puissions entrer en campagne, parce que face à nous, nous avons une maire de Paris qui, elle, est en campagne depuis un an, qui dégaine une proposition par semaine et qui a les moyens de la ville pour faire cette campagne. Donc il est temps pour nous, eh bien, de nous mettre en ordre de bataille. Et je n'ai aucun doute que, quel que soit le candidat désigné à l'issue de ce processus, eh bien, les deux autres se rangeront derrière lui. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai aussi souhaité rappeler à la Commission. Mon engagement signé, eh bien, ça n'est pas simplement une signature sur un bout de papier. Ce sont des convictions. Je me mettrai au service du candidat qui sera retenu par cette commission.
Thomas Clay, il rappelle ce candidat, du moins ce candidat à la candidature, qu'il y a quand même une maire de Paris qui s'appelle Anne Hidalgo qu'il va falloir battre. Ça va être compliqué.
Et il dit plus que ça. Il dit que les conditions de la campagne sont déloyales, puisqu'il dit qu'elle fait campagne avec les moyens de la mairie. Et il a raison. Ce qui se passe actuellement n'est pas
absolument pas normal. C'est le lot de la politique
en
général.
Non, enfin... et c'est pas une raison pour se le taire. Il a raison de le dire. Et c'est... Et permettez-moi d'approuver ce que dit Benjamin Griveaux sur ce point. La campagne n'est pour l'instant, ne s'organise pas de manière loyale. On verra bien comment ça se passe dans la suite. Mais pour revenir sur le débat précédent, je crois que c'est illusoire de croire... Alors, j'ai enfin un point de désaccord avec Valérie Lecâble, et je le regrette, évidemment. Mais je crois que c'est illusoire de croire que les choses ne sont pas faites. Benjamin Griveaux sera investi demain par le président de la République sous l'habillage de sa commission, quel que soit le caractère prétendument époustouflant et les fuites qu'on fait sortir de la Commission nationale d'investiture, dont d'ailleurs je note que personne ne connaît la composition, Benjamin Griveaux s'investit demain. Ça fait partie, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et pourquoi c'est très important? Parce que tout le monde sait que la maire de Paris sortante est très fragile sur le plan politique. Il suffit de regarder, de faire une projection à partir des résultats des élections européennes et l'état du Parti socialiste de manière générale. Donc, effectivement, ça suscite les convoitises. Il y a celle de Benjamin Griveaux, il y a aussi celle de Gaspard Ganzer.
Ça va dire, Eugèque, je vous sens piaffé sur ce sujet.
Non, mais ce qui est vrai, le président n'aurait pas pris, ou en tout cas n'avait pas encore dans les dernières heures pris sa décision. Qu'en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il est très à l'écoute, qu'il entend tout ce qu'on lui dit, y compris sur Cédric Villani, qu'il est conscient, effectivement, on l'a dit, hein, de cette personnalité clivante qu'inspire Benjamin Griveaux. Tout ça, ce sont des faits. En revanche, effectivement, pour revenir aux auditions d'aujourd'hui, il y a un certain consensus sur
votre voisin qui conteste vos fuites.
Surtout, vous ne dites pas du tout la même chose. Tous les deux des fuites, mais vous ne dites pas la même chose.
Il y a une contradiction. Et pour finir, je pense qu'effectivement, au final, c'est effectivement le président qui décide. Pourquoi? Parce que derrière Paris 2020, c'est 2022, c'est la présidentielle qui se joue. Parce que perdre Paris, c'est perdre, effectivement, c'est laisser un boulevard à Anne Hidalgo.
Il y a une contradiction dans la déclaration que nous venons de voir de Benjamin Griveaux. Parce qu'il dit qu'il faudrait que cette campagne commence enfin. Et il dit en même temps à tout le monde et à tous ceux qui veulent l'entendre que ça fait 2 ans qu'il est en campagne et qu'il a travaillé, qu'il est sur le terrain, qu'il a mis tout en place, etc. Alors est-ce que ça fait 2 ans qu'il est en campagne ou est-ce que la campagne n'a pas commencé?
Je voudrais terminer une phrase.
Valérie, je suis désolée. Je voudrais juste terminer maintenant. Donc, ce qu'on constate, c'est que Benjamin Griveaux essaye de passer depuis un certain temps en force, tout à fait. Il a démissionné du gouvernement pour être candidat, alors qu'on ne lui avait pas demandé. Il l'a fait trop tôt et plus tôt que ce que voulait le chef de l'État, qui voulait que ce soit après les européennes et pas avant, pour pas semer le trouble trop tôt. Donc moi, ce que je constate simplement, c'est qu'il a du mal à rassembler et que ça va laisser des traces, tout ça. Il a beaucoup de mal à rassembler, c'est très compliqué. Et au bout de 2 ans de campagne, il est toujours pas plus haut dans les sondages que les autres et il n'arrive pas à rassembler les autres. C'est ça la réalité de la situation.
Oui, ils sont tous à jouer égal, vous l'avez déjà dit. Dernier mot, Albert Zenou.
Alors, il faut se rappeler que Benjamin Griveaux, c'est un des macronistes de la première. Et on sait que le président est très attaché à son entourage et à ses premiers.
Il a ses
premiers broyards qui l'ont suivi depuis le début. Mais une chose là qui vient amener un petit bémol à ce que je viens de dire et ce que j'ai dit précédemment, c'est que il y a un risque politique pour Emmanuel Macron. On sait que Benjamin Griveaux, la candidature, elle va pas être évidente. Est-ce que en investissant Benjamin Griveaux, est-ce que le président
président ne prend pas un risque de se voir reprocher et de se voir imputer la défaite éventuelle et en 2021. Alors voilà. Que si c'était un Cédric Villani, ce serait plus simple. On mettrait ça sur le dos
d'un
Mais le problème, c'est que Villani parle aux électeurs de gauche.
Il s'est investi dans les européennes et finalement, ça
a déjà bénéficié. De toute façon, il s'est investi dans les municipales. Il est allé à Lyon hier et il a vu.
En tous les cas.
Il a dîné avec Gérard Collomb et il a petit déjeuné avec son rival.
Allez, en tous les cas, réponse ou élément de réponse, je me tourne vers Saverio Rojec. Peut-être demain soir avec ce bureau exécutif dont on dit qu'il ne. Peut-être ne donnerait pas tout de suite, au fond, le nom du gagnant. Nous verrons bien.
J'ai le sentiment qu'après les auditions aujourd'hui,
nous verrons bien. Ce serait une claque phénoménale pour Benjamin Griveaux.
Nous verrons. Ça ferait fragiliser leur candidat.
Nous verrons demain
soir. Tout ça, c'est de l'intox. Comme la montée en puissance de Villani.
Une fois, je suis d'accord.
Vous évoquiez le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui décidément vire au vert. Je voudrais qu'on dise quelques mots de ce qui a été annoncé en sortie de Conseil des ministres. La France qui instaure une écotaxe sur les billets d'avion l'an prochain, les propos d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, à l'issue donc d'un conseil de défense écologique.
Nous avons décidé, comme l'ont fait d'autres pays, de mettre en œuvre une éco-contribution sur le transport aérien, sur tous les vols au départ de la France. Elle sera progressive et représentera une contribution de 1,50 € par billet sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique et pourra aller jusqu'à 18 euros sur un vol hors Union européenne, en classe affaires. Elle s'appliquera à toutes les compagnies au départ de la France, quelle que soit leur nationalité, de sorte qu'il n'est pas question que notre pavillon national s'en trouve désavantagé.
Voilà, une nouvelle taxe, Thomas Clé.
Oui, une nouvelle taxe sur les transports aériens. Écoutez, moi, je suis plutôt favorable. On peut pas avoir un discours qui est tout le temps un discours écologiste. Et puis, ce qui est peut-être un des instruments les plus polluants, c'est-à-dire l'avion, ne pas le taxer. Voilà. Mmh. Il faudrait maintenant que ce soit suivi au niveau européen, parce qu'une décision purement française ne sert à rien.
Ça va, Roger ? C'est avant tout, effectivement, une mesure symbolique, j'allais dire une mesure politique. Ça va pas rapporter grand-chose, même si, petit à petit, ça va rapporter 182 millions d'euros, selon les projections.
Presque l'homéopathie.
C'est presque l'homéopathie.
C'est effectivement, le gouvernement décide. On lui a beaucoup reproché lors du discours de politique générale de ne pas avoir eu un discours porté sur l'écologie, d'avoir aucune annonce concrète. Donc là, voilà, on parle à la fameuse jambe gauche, j'allais dire, de la Macronie. C'est une mesure, écologique. C'est aussi pour dire le libéralisme peut être aussi vert.
Valérie Lecâble, sur ce virage vert un de plus du chef de l'État.
Je trouve l'intention extrêmement bonne, mais la démarche n'est pas terrible parce que ça pénalise notre compagnie nationale,
la France.
Et il aurait fallu quand même qu'il y ait une négociation au niveau minimum européen, voire international, avant de procéder à cette décision. Et je voudrais juste rajouter que moi, je vois aussi l'histoire des camions, là, à qui on enlève quelques centimes d'exonération sur le diesel.
2 centimes par litre.
Voilà, donc ça va être comme les autres avec l'homéopathie. Je pense qu'ils vont pas être content du tout. Et vous savez que les chauffeurs de camions sont toujours des gens extrêmement remontés, qui tiennent beaucoup à leurs avantages.
Oui, la FNTR est en train de réfléchir.
Le pays
quand
il faut.
Albert Zénou.
Donc, il faut faire attention à ce sujet-là aussi.
Albert Zénou, sur cette décision.
Moi, je me désole toujours que de nouvelles taxes arrivent comme ça, sans aucune concertation. Les compagnies aériennes n'avaient pas été consultées. Ça va coûter quand même 160 millions d'euros à Air France, qui n'est pas dans une situation des plus agréables actuellement. C'est dommage d'en passer par une écologie encore punitive. Alors certes, on peut dire que ça va inciter combien de personnes à ne pas prendre l'avion ? Peu de personnes. Alors l'argent récolté va servir au train et à l'amélioration de la transition écologique. Mais pour l'instant, c'est encore. On voit une chose est sûre, c'est qu'on voit que les impôts et les taxes augmentent.
Allez, on va rester sur ces questions liées aux taxes et à l'écologie dans un instant. Pour l'heure, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info, c'est le dernier avec vous, Thomas Bénèche.
Nous sommes dans la Libération. Se réjouit ce soir sur France Info l'avocat de Bernard Tapie. Le tribunal correctionnel de Paris prononce ce mardi la relaxe de son client gravement malade et absent au prononcé du jugement. C'est dans le cadre de l'affaire de l'arbitrage du litige Crédit Lyonnais Adidas lié à la revente de l'équipementier sportif. La justice estime que le délit d'escroquerie n'est pas constitué. Les médicaments homéopathiques ne seront plus du tout remboursés en 2021. La ministre de la Santé le confirme dans un entretien publié ce soir soir sur le site internet du Parisien. La Haute Autorité de Santé avait jugé il y a quelques jours ces traitements inefficaces. 434 voix pour, large adoption cet après-midi à l'Assemblée nationale pour la proposition de loi pour lutter contre les propos haineux sur internet. Ce texte doit obliger les moteurs de recherche et plateformes à retirer tout contenu illicite sous 24 heures, sous peine d'amende. Plus de 37 000 personnes s'opposent à l'abattage du seul et unique loup présent en Meurthe-et-Moselle. Elles ont signé une pétition pour demander au préfet de revenir sur sa décision de faire tuer l'animal. Il est accusé d'être trop agressif, d'avoir provoqué aussi des dégâts dans de nombreux élevages.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions à l'instant l'écotaxe, la vraie terminologie, c'est l'éco-contribution. Nous refermons ces informés avec eh bien, cet étonnant document mis en ligne par Brut.fr et visité par plus de 100 000 personnes, au moins en quelques heures seulement. L'ancien député vert Yves Cochet, qui fut ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de Lionel Jospin sous la cohabitation avec Jacques Chirac, eh bien, évoque dans cet entretien, il dure un peu plus de 7 minutes, la fin de la civilisation, et il nous fait visiter, sans la localiser, sa propriété dans laquelle il s'est replié en mode survie avec sa fille. Écoutez, regardez un extrait.
Là, les gens disent, mais il est fou, quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé et qui annonce la fin du monde, un peu comme on faisait dans l'an 1000. Bon, on verra bien, c'est l'histoire qui tranchera, hein, comme disait Lénine. Avec ma fille, nous avons acheté cette maison, voilà, une treizaine d'années. Parce que nous avons anticipé le fait qu'un effondrement général, systémique et global du monde puisse avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030, hein, je ne suis pas à 5 ans près. Les voitures électriques, les voitures autonomes, il n'y aura plus de voitures en 2040. Il y aura quelques calèches avec des chevaux, oui. Ce qu'on a connu comme hécatombe dans les deux guerres mondiales nous paraîtra peu par rapport à ce qui va venir dans 10-15 ans.
Voilà donc Yves Cochet, survivaliste, montage signé Kevin Baudreau. Savaya Rejec, vous êtes surprise par ce récit, au fond, assez étonnant de cet ancien député, ancien ministre.
Oui, absolument. Il est devenu... c'est un apôtre de la décroissance. C'est psychopathe, je ne sais pas. En tout cas, baroque, c'est sûr. Voilà, je vais le qualifier comme ça. Après, il faut aussi écouter ce qu'il dit. Hein. Ce sont des choses, à son sens, il faut limiter les naissances. C'est le premier geste écologique. C'est pour sauver la planète, c'est de ne pas faire d'enfants. Il a des solutions très concrètes. Hein. Il dit il faut inverser la logique des allocations familiales. Voilà.
Il a une fille.
Il faut que les allocations soient dégressives et qu'au bout du troisième enfant, il n'y a plus d'allocations familiales. Et tout ça pour accueillir les migrants. Donc voilà, c'est vrai qu'au final, quand on regarde ça, c'est au mieux baroque, au pire délirant.
Au mieux baroque, au pire délirant. Vous dites Albert Zenou.
C'est un survivaliste. Aux États-Unis, il aurait peut-être des armes cachées et puis pour faire face à la fin du monde et au soulèvement des zombies. Mais il faut se rappeler que Yves Cochet, qui fut ministre et député, avait prédit
Europe quand... Écologie, les Verts plutôt, les Verts.
Il avait prédit qu'en 2012, les Jeux olympiques de Londres n'auraient pas lieu parce qu'il n'y aurait plus de pétrole, il n'y aurait plus de voitures. Déjà, donc sa prévision et sa prédiction il y a une dizaine d'années n'a pas été suivie d'effet. Non, on peut pas laisser. Il peut le dire ce qu'il veut, c'est complètement hallucinant. Enfin, on arrive avec des peurs millénaristes. C'est complètement fou d'arriver à ce que un ancien ministre, un ancien député puisse tenir tels propos.
Valérie
Le Câble, oui.
Ouais, non, puisqu'on a le goût de débat autour de cette table, vous avez quand même dit qu'il y a 100 000 personnes qui avaient vu cette vidéo.
Avec beaucoup de commentaires.
En très très peu de temps. Et je pense qu'il exagère considérablement, je suis tout à fait d'accord. Mais en revanche, qu'on soit à la veille de changements de comportement assez profonds. Et notamment, par exemple, ce qu'on disait sur les gens qui prennent l'avion, etc. Vous savez que maintenant, ce mouvement qui est venu de Suède et de gens qui disent, on prend plus l'avion parce que de toute façon, l'avion, ça pollue la planète. Etc.
Pour les déplacements domestiques,
oui. Mais pour les déplacements domestiques. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est au début,
de
comportements qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il n'y a pas si longtemps, la fin du plastique. Il y a des tas de choses qui sont... On voit bien qu'on est dans un moment de basculement et où les gens ne sont plus d'accord pour polluer et où ils veulent effectivement avoir un comportement responsable. Alors, et ça, il faut quand même l'entendre.
Vous dites qu'il y a un changement des comportements à venir. Je rappelle que le survivalisme a fait l'objet d'un salon. Il y a une deuxième édition à Paris, c'était il y a deux mois. C'est assez en vogue. Thomas Clay,
Non. Si c'est ça le sens.
N'est pas armé. Thomas Clay, qu'est-ce que ça renseigne pour poursuivre ce que dit à l'instant Valérie Leclerc sur les, au fond, les préoccupations des individus et pas seulement en France?
Hein. Je trouve que ce qu'on vient de voir, ça dit quand même beaucoup de l'évolution de notre société parce que Yves Cochet, c'était un député et un ministre, ça a été rappelé, qui était d'ailleurs quelqu'un de tout à fait respectable, et qui l'est encore évidemment, mais qui était au cœur du système politique. Et c'est ça qui est une transgression très forte en réalité. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui était au cœur du système politique il n'y a pas si longtemps, on ne parle pas d'un Uluberlu qui aurait été là il y a 40 ans, et qui maintenant a l'air d'un prédicateur ou d'un gourou dans sa ferme. Il nous dit qu'il ne faut pas faire d'enfants, mais il est quand même copropriétaire avec sa fille. Heureusement qu'il a une fille, lui. Et il nous dit ça, effectivement, dans le même reportage. Et je trouve que ça dit beaucoup des formes de rejet de la société. Ici, très radical, bien sûr, mais je n'exclus pas que ce type de comportement se multiplie.
Je trouve ça assez triste de voir un ancien ministre, effectivement, de l'environnement tenir ce genre de propos. Et je trouve ça assez triste de voir ça et ne pas porter un message d'espoir pour la planète, au contraire.
Non, bien sûr, il fait partie de cette tendance chez certains écologistes qui sont pour la décroissance, pour un rejet de tout ce que le monde a apporté de neuf, de nouveau. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui l'écologie est transpartisane. Mmh. Elle est aussi bien de droite que du centre que de gauche. Et elle n'est plus, heureusement d'ailleurs, elle n'est plus seulement liée à un seul parti, Écologie Les Verts, même si aux élections européennes, Jadot a fait un très bon score. Donc je pense que l'écologie est en train de décémer un peu partout. Et tant mieux. Et peut-être qu'on aura peut-être plus ce genre de discours.
Allez, Albert Zenou, Z comme zombie, tiens, oui, c'est vous qui l'avez cité. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la une du Figaro demain?
On revient sur tapis et c'est relax après ouais. 25 années de procédure.
25 années de procédure, ce sera donc la une du Figaro. Merci à vous, Albert Zenou. Merci Valérie Lecable, Savaria Rojek et merci Thomas Clay d'avoir participé à ces informés. Je vous donne évidemment rendez-vous pour une prochaine édition demain soir. Bonne soirée.